Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Bonjour à tous, nous allons donner une suite à une étude que nous avons partagée depuis cet été, sur la tentation, les tentations de Jésus, nos tentations, et je voudrais aborder le dernier volet maintenant. Alors, pour ce faire, nous allons ouvrir un texte dans le livre des Hébreux, si vous voulez bien voir avec moi, livre des Hébreux, chapitre 5. Et nous avons une introduction à notre méditation, ou un rappel, si vous voulez bien, tout simplement. Et dans le chapitre 5, verset 7, voilà ce que nous lisons, partageons ensemble. C'est lui, c'est Jésus qui, dans les jours de sa chair, dans son humanité, si vous aimez mieux, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété, à cause de sa foi. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour nous tous, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Écoutez bien, je reprends simplement cette petite phrase. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Alors, nous entrons au cœur même de la tentation, parce que il y a quelqu'un qui nous a précédés, il y a quelqu'un qui l'a dominé, la tentation, qui en a été vainqueur, et nous pouvons véritablement nous identifier à Christ, parce que c'est un apprentissage. La tentation, je le rappelle, a deux directions, deux leviers, la jouissance et la souffrance. La souffrance est immédiate, la jouissance d'abord, mais avec conséquence la souffrance après. Donc c'est la souffrance quand même. Et Christ a été exposé à toutes les situations inimaginables pour véritablement, nous dire que le passage a été ouvert et que nous pouvons être victorieux de la tentation. Alors, ceci dit, nous allons revenir dans notre texte initial, dans Luc, chapitre 4, au verset 4, et je vais commencer à lire simplement deux versets. Luc, chapitre 4, verset 1er et le 2e. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Ça, c'était l'objet de notre premier rendez-vous que nous avons défini ce qu'était la tentation et toutes ses implications. Et puis, la fois dernière, nous avions parlé dans le détail, expliqué ce qu'était la première tentation, la seconde tentation de Jésus, et nous nous étions arrêtés là. Donc nous allons reprendre à la dernière et troisième tentation de Jésus, mais permettez-moi, pour ceux qui n'étaient pas là, de faire brièvement, rapidement, un petit récap sur la nature de la première et de la deuxième tentation. Et je reprends, il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, Jésus eut faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, et il est ajouté dans d'autres traductions, de toutes paroles qui sortiront de la bouche de Dieu. La première tentation, des pierres transformées en pain. Le but, je le rappelle, c'était d'échapper à la souffrance physique. Imaginez-vous 40 jours de jeûne. La nature de la suggestion de l'adversaire, c'était pousser Jésus à agir indépendamment de la volonté de Dieu ou en dehors de la volonté de Dieu pour satisfaire ses besoins naturels, manger c'est naturel, et ainsi de satisfaire également ses nécessités ou les nécessités vitales, parce qu'on ne peut pas vivre sans manger. Voilà, ça c'était la suggestion subtile et diabolique de l'adversaire. Le péché incriminé est le manque de confiance en Dieu. Seigneur, est-ce que tu vas me laisser mourir ou est-ce que tu vas faire quelque chose pour moi? Est-ce que tu vas me laisser souffrir ou est-ce que tu vas intervenir pour, me redonner ce qui est normal parce que c'est toi qui m'as créé et tu m'as créé avec un cœur et c'est tout à fait normal et naturel, c'est légitime. Et l'enjeu, c'est soit attendre le secours de Dieu, imaginez-vous 40 jours, c'est pas n'importe quoi, attendre le secours de Dieu ou faire par soi-même, puisque tu n'agis pas, Dieu. Eh bien, moi, je vais agir à ta place et je sais comment je vais m'y prendre. Nous voyons que les responsables de la désobéissance de cette tentation dans sa nature même, c'est l'impatience. Alors, c'est l'insupport de la souffrance et c'est une tentation d'ordre, je le répète, naturel et légitime. Dis donc, Seigneur, c'est toi qui m'as créé. Tu as permis que l'homme mange et maintenant je n'ai rien à manger, je vais mourir. Alors on comprend que ça peut susciter, après la souffrance, de la révolte. Ça, c'est la première tentation. La deuxième, aussi rapide, nous la lisons. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et le serviras lui seul. » Deuxième proposition diabolique. On pourrait la définir de cette manière, c'est la voie de la facilité par la jouissance. Alors on ne parle plus de souffrance là. C'est la jouissance ou tout simplement c'est établir le royaume de Dieu sans passer par la croix et le renoncement. C'est l'inverse de ce que nous avons vu il y a un instant. En d'autres termes, la proposition du diable adressée à Jésus, c'est s'approprier les promesses divines, ouais, il est question de ce que Dieu a promis, sans passer par l'obéissance et la soumission à Dieu et contourner la croix. Toi qui es le Christ, tu sais qu'il y a des promesses, ton Dieu t'a fait des promesses de régner sur l'univers entier, le monde entier. Mais si tu pouvais éviter de passer par la croix, ça serait pas mal. Et toute vie chrétienne ne peut en aucun cas éviter la croix. C'est pas possible. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Et la proposition toute subtile, eh bien, c'était de dire à Jésus, tu contournes, c'est pas la peine d'y monter, ça sert à rien. Et pour nous, c'est à peu près la même chose quelque part. Quand le diable ne peut pas, excusez-moi l'expression, c'est un peu trivial, mais nous avoir, par la souffrance, il va nous avoir par la jouissance. Et à ce moment-là, qu'est-ce que nous allons faire? Cette tentation subjective et morale flatte l'orgueil humain. Tu te rends compte, tu vas régner. Regarde les royaumes, regarde cette gloire, regarde cette richesse. Eh bien, écoute, vas-y, hein. Tu y vas tout entier et il n'y a pas de problème. Dont le moteur est la convoitise et le désir immodéré d'être quelqu'un, tu te rends compte, tu vas régner sur la terre entière. Mais Jésus n'était pas venu uniquement pour régner sur la terre entière, il était venu pour régner sur l'univers entier. Ce n'était qu'une poussière, finalement. Donc, devenir quelqu'un ou posséder, eh bien, le monde, en quelque sorte. Le résultat, eh bien, c'est compromettre notre relation avec Dieu par l'appât, la réalisation ou l'acquisition d'un gain ou d'une position facile, élevée et glorieuse. Je règne. C'est ce qui était proposé. Et derrière tout cela, eh bien, il y a un danger qu'il ne faudrait pas minimiser et une proposition. si tu te prosternes devant moi, si tu me sers et tu m'adores, mais tout est à toi. Je te le donne. Parce que moi, ça m'a été donné. Non, ça lui a pas été donné. Il l'a volé. C'est une usurpation. Et il fait croire. Il fait croire aux hommes encore d'hier ou d'aujourd'hui que ça lui appartient, mais ça n'appartient pas au diable. Le monde, c'est vrai qu'il fait beaucoup de choses dans ce monde, mais il n'a rien. Et ça, c'est quelque chose que les hommes ont compris. Enfin, pas les chrétiens, naturellement. Enfin, nous, on l'a compris, mais ils ont compris qu'on pouvait s'approcher du diable pour obtenir le succès, la gloire, l'élévation, la puissance, le règne et tout ce que vous voulez. Hein. Ça s'appelle de l'occultisme. Ça s'appelle des tractations et des pactes avec l'adversaire. Ce sont des ambitions malsaines et des ambitions égoïstes. Alors, nous allons voir maintenant la suite. J'ai voulu le rappeler parce que c'est quand même assez important. Troisième tentation. Le diable conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Nous en sommes à la troisième tentation. La troisième tentation a un autre caractère, c'est qu'elle concerne la vie spirituelle. On a vu la première, le corps, manger. La deuxième, c'est l'âme, morale, la gloire, régner, dominer, avoir, posséder, être quelqu'un. Puis la troisième est d'une plus grande subtilité, c'est qu'elle a, elle est relative à la vie spirituelle. Le cadre a été savamment préparé par l'adversaire. C'est un symbole religieux, Jérusalem, pas n'importe quelle ville. C'est le temple de Jérusalem. Imaginez-vous. De quoi, véritablement, eh bien là, mettre de la poudre dans les yeux de n'importe quel juif. Et le voiler. Parce que tout ça, c'est l'emblème du sacré. Ah, la terre, tout ce qui appartient finalement, eh bien là, à la deuxième tentation, c'est vrai, mais c'est encore le monde. Mais là, vous rendez compte, c'est sacré. Donc, ça doit être, ça ne peut pas être mal. C'est sacré. Quand le diable, et je voudrais le dire à dessein, quand le diable se sert des choses saintes, et, excusez-moi, il ne nous touche pas, il y tripote. C'est le mot, hein. Quand il utilise la parole de Dieu pour inspirer confiance, et ça, c'est particulièrement à l'adresse des enfants de Dieu, des chrétiens, de ceux qui connaissent un petit peu, bon, la Bible, etc. Alors, je peux vous dire qu'il sait très bien ce qu'il va faire, il sait très bien comment il va manipuler, et il sait très bien, quelque part, que très très souvent, il va gagner. Hein. La première tentation était douloureuse, la deuxième était vaniteuse, et la troisième est pernicieuse, et elle est audacieuse. Et on va voir. Écoutons ce que le diable lui dit. « Si tu es le Fils de Dieu, nous l'avons explicité dans la première étude, jette-toi d'ici, en bas, car il est écrit, précédemment, le diable avait élevé sur le haut du sommet du temple. » Alors, ça représentait quand même quelques 20 mètres, 25 mètres, 30 mètres, hein, je ne sais pas. Mais toujours est-il que ça représente un espace de chute ou une longueur de chute qui est, sans manquer le but, eh bien, mortel pour un homme. Donc, jette-toi d'ici, en bas, car il est écrit. Et c'est là où nous voyons toute la subtilité, et cette subtilité réside en ce qu'une telle tentation passe pour être spirituelle, puisqu'on se sert de la parole de Dieu. Car elle repose sur la foi même, et surtout sur son usage. Alors, le diable donc la conduit, l'a placée sur le haut du temple, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Point. Et quand vous lisez le psaume 91, d'où est tirée cette citation? Vous savez ce qu'il est dit? Afin qu'ils te gardent dans toutes tes voies. Et ça, c'est pas dit. C'est la subtilité de l'étude, hein. Parce que le diable est un menteur, qui se gage derrière des vérités. Ça, c'est subtil. Parce que vous retrouverez le psaume « Qu'il te garde dans toutes tes voies ». Et le diable omet bien volontairement de le dire à Jésus, mais Jésus connaît la parole. « Afin qu'il te garde dans toutes tes voies ». Cette tentation, je le répète, repose sur la foi même et son usage. Nous, en tant que chrétiens, nous avons une idée de ce qu'est la foi. Et nous avons certainement une idée, par l'enseignement qui nous est donné depuis que nous connaissons le Seigneur, sur l'usage que nous pouvons faire de la foi. Et c'est précisément là le piège. Et la question qui survient, c'est quel emploi va-t-on faire de notre foi, de notre confiance, de nos privilèges chrétiens, des dons que Dieu nous a confiés? Eh oui. On peut en faire et on peut les exercer dans le cadre de la volonté de Dieu, dans le cadre de l'obéissance, dans le cadre du respect de l'honneur de Dieu, où on peut s'en servir comme des friandises, comme des gourmandises, en proclamant « j'ai un don, j'ai ceci, j'ai cela », etc., etc., et puis de dire « eh bien finalement c'est Dieu qui me les a donnés, mais alors c'est pour moi, hein ». C'est pour moi. Et je vais éblouir les gens, parce qu'imaginez-vous que vous montiez à 30 mètres et que vous avez des gens qui vous regardent monter et qu'ils vont vous voir sauter le... ils vont dire, mais c'est, s'il arrive par terre sans se casser, ah, c'est un prodige, c'est formidable. Regardez, j'ai reçu des dons. L'occultisme marche comme ça, hein. Ça fonctionne comme ça. Donc attention, il faut du discernement. Il faut être prudent, il faut être sage. Alors, le raisonnement serait le suivant, dans la proposition que le diable fait à Jésus, qui pourrait être ceci, si tu es le Fils de Dieu, ne crains rien, parce que tu es le Fils de Dieu. En toute situation, en danger même extrême, Dieu sera toujours ton secours. Vous êtes d'accord, Dieu est toujours notre secours, dans la mesure où nous restons dans l'obéissance. Mais il ne sera peut-être pas notre secours, si nous sommes, que nous confondons la foi et la témérité. Voilà, c'est ça la question. En d'autres termes, le diable dit à Jésus, ne tiens aucun compte du péril, des menaces et des dangers. Proclame ouvertement et hautement ta foi à qui veut l'entendre. Montre par des actes que tu crois en Dieu. Autrement, eh bien, t'es rien du tout. Moque-toi de la prudence et de la tiédeur. Jette-toi dans le vide. Ça s'est vu dans nos milieux, ça. Hein? Et ça s'est pas seulement vu chez les chrétiens, mais ça s'est vu aussi prêché par des prédicateurs. Et là, c'est grave. Je dis bien c'est grave. Parce que si vous voulez faire des expériences, faites-les vous-même. Mais ne les faites pas faire aux autres. Allez, vas-y, sans casque. Tu prends ta moto. Voilà. Tu vois un feu rouge? Vas-y, tu peux y aller. Le Seigneur est avec toi. Il est assis derrière la moto. Hein. Ben, vous allez voir. Et toutes sortes de choses comme ça ont été données. Moi, ça m'irrite, hein, des choses pareilles. Parce que je crois que la parole, c'est la parole. Que Dieu est Dieu et que nous sommes des hommes. Et attention, hein. Et attention. Et vous savez, hein. On a quelquefois perdu des frères, des sœurs. Parce que on n'a pas tenu compte de certaines choses. Dieu doit être respecté. Et ça dépend quelle oreille nous avons. Si nous avons une oreille pour Dieu avec un cœur qui suit le Seigneur, ou si nous avons une oreille, où véritablement, eh bien, à ce moment-là, nous écoutons une autre voix, ben vous savez, c'est comme ça qu'on est sorti du jardin d'Éden. Et on n'y est pas rentré encore. Hein. On y retourne. Ouais, on y est déjà en quelque sorte, mais le jardin céleste, hein, pour nous, bien sûr. Le péché ici est un excès de foi, vous comprenez? Manque de foi dans la première. Manque de foi. Mais là, c'est un excès de foi. Un abus inconsidéré de la foi au mépris de la sagesse la plus élémentaire et de la pensée de Dieu exprimée dans sa volonté. Ouais. La tentation, c'est une crise de foi. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce qu'il faut faire quand il y a des crises de foi? Hein, soit dans un sens ou soit dans un autre. Cette Cette situation s'appelle tenter Dieu. Et vous savez que dans les 10 commandements, tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. C'est-à-dire, c'est lui jeter un défi, une injonction d'agir, un commandement que l'on donne à Dieu d'intervenir sans délai, sous peine d'être renié. Seigneur, si tu ne le fais pas, moi je crois plus en toi. C'est de l'infantillage, hein. On pourrait dire c'est de la gaminerie tout ça. C'est pas une preuve de maturité. Quelquefois, on pourrait penser que parce qu'on parle de dons, parce qu'on parle de ceci, oh, véritablement, c'est la maturité. Mais non, c'est un état puéril, c'est un état infantile. C'est le contraire. Naturellement, c'est le contraire. Comme si le Dieu Tout-Puissant, finalement, avait besoin de recevoir des ordres. Il sait très bien ce qu'il va faire avec nous. Il sait très bien ce qu'il va faire. Jésus est sorti de cette dernière épreuve triomphant. Il n'a pas mordu à l'hameçon, dans la première, la deuxième et la troisième. Il s'est refusé de réclamer quelque assistance miraculeuse ou surnaturelle qui n'était pas légitimée par la volonté de Dieu. C'est pour ça que il faut faire attention. Nous bénissons le Seigneur pour les miracles et le surnaturel. Parce que nous sommes une église charismatique et nous n'allons pas renier là où le Seigneur nous a conduits. Mais attention, attention de ne pas nous méprendre, parce que là où il y a finalement la vérité, où il y a les dons de Dieu, il y a la contre-vérité et la contrefaçon de ces dons. Qui allons-nous écouter? Jésus est passé à travers tout cela et il a ouvert la porte pour nous avertir et que nous tombions pas dans le piège. Jésus a préféré les lenteurs et toutes les impuissances apparentes d'un travail spirituel aux coups d'éclat ou aux actes d'éclat. Mes frères et sœurs, il y a une vertu cardinale dans la vie chrétienne, c'est la patience. De tenir notre âme en patience. De nous rappeler ce qu'il nous est dit dans Ésaïe chapitre 15 verset 30, ou chapitre 30, verset 15, vous vérifierez, quand il est dit ceci, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Et ça, c'est bien dit. Oubli volontaire. Alors faisons attention, parce qu'il y en a un qui nous attend. Nous remarquons que toutes ces paroles sont tirées de l'Écriture. La leçon qui s'en dégage dans cette troisième tentation, c'est qu'en matière, finalement, eh bien, de piège que le diable nous tend, il n'est pas besoin d'illumination ou de révélation spéciale, mais que la parole inspirée, celle que nous ouvrons tout simplement, celle que vous lisez tous les jours, suffit pour repousser les séductions de l'ennemi. Arrière de moi, Satan, tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Et ça, c'est la victoire. Donc, une première conclusion de cette troisième tentation, nous retirons donc trois enseignements des trois tentations, pardon. C'est l'effroi ou la crainte de la souffrance et l'attrait de la jouissance sont les leviers pour manipuler les enfants de Dieu, pour jeter le croyant hors de la voie de l'obéissance. On l'a compris. Le maître mot, c'est résister et discerner. Le deuxième point, c'est que la tentation est permise pour affermir positivement notre vie spirituelle. C'est enduré et surmonté, et cela, quand nous arrivons et nous parvenons à cela, eh bien ça produit la force morale chez un enfant de Dieu, chez un chrétien. Le troisième point, c'est que les victoires de Jésus, eh bien, par son exemple, où nous l'avons constaté devant l'attitude et la provocation qui étaient exposées à Jésus, c'est qu'il n'a pas fui et il n'a pas succombé. Et c'est là où il est parfait. Alors, nous sommes à son école et nous sommes appelés à relire ce que nous avons lu tout à l'heure. Il a appris, Jésus a appris, bien qu'il soit le Fils de Dieu, hein, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés, c'est-à-dire vous et moi. Et notre modèle, c'est pas une trousse ou une mallette avec toutes sortes de moyens, de méthodes ou toutes sortes de choses. C'est notre foi dans la personne de Jésus en restant positivement sur sa parole. Ça, c'était les tentations. Maintenant, il y a un texte que j'aimerais maintenant commenter dans ce que nous avons dans Luc chapitre 4. Écoutez bien. Au verset 13. C'est ce verset 13 qui va maintenant redémarrer un peu et terminer notre méditation là que nous avons commencé. Verset 13. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, une, deux, trois, physique, morale et spirituelle, le diable s'éloigna. Écoutez bien ce mot. Il s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Ah, je vous ai dit que Jésus avait la victoire. À ce moment-là, il a eu la victoire. Comme il aura la victoire jusqu'à son dernier soupir. On n'a pas à en douter. Mais ça nous parle de quoi, ça? Ça nous parle que les uns et les autres, nous ne sommes que des hommes. À quelque âge soyons-nous arrivés? Que ce soit des enfants, que ce soit des jeunes gens ou des jeunes filles, que ce soit des hommes dans la pleine force de l'âge ou que ce soit des personnes âgées, nous ne sommes que des hommes. Et croyez bien que il y en a un qui va nous attendre dans les moments favorables, des moments de vulnérabilité, des moments de faiblesse, des moments de fragilité, des moments où nous sommes ébranlés par la souffrance ou que nous sommes aveuglés par la jouissance. Après l'avoir tenté, je relis, de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Je voudrais vous rassurer, parce qu'en lisant ça, on se dit, mais on va y aller, hein. C'est pas possible. Ouais. Mais le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est près de nous, dans la mesure où nous nous tenons près de lui. Simplement, en restant dans l'évangile de Luc, je voudrais faire la démonstration de tous les moments où le diable a attendu Jésus, tous les moments favorables où il a essayé de le faire tomber. Alors on va commencer. Pour Jésus, la tentation a été incessante, quotidienne, permanente. C'est pour ça qu'il est devenu l'auteur de notre salut, comme nous l'avons lu tout à l'heure. Le maître mot, c'est résister, c'est surmonter, c'est discerner, c'est esquiver, c'est faire confiance. Et à ce titre, nous avons besoin de nous rappeler ce que l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 6, et vous connaissez, parce que là on ne peut pas parler de la tentation sans parler de ce texte, brièvement, Éphésiens 6, il est dit ceci. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Mais attendez, c'est pas fini. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Nous ne sommes pas démunis, nous ne sommes pas, sans moyens. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Vous avez remarqué? Ça s'appelle les ruses, là. Les pièges. Tentations, ruses, pièges. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Des pierres en pain. Ou des royaumes, des trésors et des richesses. Pas seulement la chair et le sang, parce que ça c'est la dimension humaine. Mais attendez-vous, que nous avons aussi à lutter contre des dominations, contre des autorités, contre des princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, revêtez-vous, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, dans le temps qui sera défavorable pour nous, mais lui guette. Le moment où il pourra nous piéger. Et vous savez, il est patient, lui. Parce que votre histoire, mon histoire, c'est un petit espace de rien du tout dans l'histoire de l'adversaire dont il a toujours agi à travers les siècles, les civilisations. Il en a vu des hommes passer. Hein. Il a vu des hommes dépravés. Bon, il se frotte les mains quand c'est comme ça. Parce qu'il leur fait faire tout ce qu'il veut. Il a vu des mondes s'effondrer, des sociétés, toutes sortes de choses. Mais il a vu aussi des saints tomber. Il a vu des hommes de Dieu tomber. Il a vu des hommes qui étaient des grands hommes de foi. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que tous les grands hommes de foi qui nous sont dépeints dans la Bible, Dieu les a relevés. Parce qu'ils l'ont voulu, hein. Parce qu'ils l'ont voulu. Donc, on s'aperçoit que quand il nous est dit de lutter, c'est que nous ne luttons pas contre des courants d'air et nous ne nous battons pas contre l'air, mais il y a des réalités dans notre monde, dans notre vie. Réalité terrestre, mais réalité céleste. Réalité visible, réalité matérielle, réalité invisible, réalité d'un autre monde. Eh, ça nous est dit, hein. Je pense que nous sommes chrétiens et nous devons prendre entièrement la véracité de la parole de Dieu. Nous la connaissons. Donc, voilà. Alors, rapidement, quelques exemples pertinents où Jésus a été tenté d'être mis en échec et de renoncer à être le sauveur du monde. Jusqu'au moment favorable. Je cite, regardez pas dans votre Bible, je vous citer les textes, mais vous les regarderez parce que j'ai encore d'autres choses à dire. Dans Luc chapitre 4, verset 29, tout de suite après, quand Jésus va avoir la primeur de son message et qu'il va monter dans son village de Nazareth, ça va pas leur plaire. Et pourtant, ils le connaissaient, ils l'avaient vu grandir. Et à un moment donné, il nous est dit qu'ils ont voulu, mais quelle inspiration les avait poussés, l'enfant du pays à le monter sur les pentes escarpées de leur montagne pour le précipiter en bas. Un crime. Qu'est-ce qu'il y avait derrière? Jésus aurait pu faire un miracle en disant, écoutez, je vais vous montrer que moi, Nazérien, enfin, vous avez compris, vous avez donné le mot qu'il faut, mais en tous les cas, une chose qui est ça, moi, enfant de Nazareth, c'est mieux, donc, à ce moment-là, je peux vous montrer avec brio que je suis véritablement, eh bien, le Fils de Dieu. Il aurait pu le faire, c'était une tentation, c'était revenu à la deuxième tentation, si vous voulez. Les Nazériens, les gens de Nazareth en colère. Tout de suite, vous tournez un chapitre. Dans Luc, chapitre 5, verset 21, Jésus est accusé de blasphème. Parce qu'on lui dira, mais qui peut pardonner les péchés, vous savez, quand on a fait venir cet homme, le passant par le toit de la maison. Ouais. Là, il aurait pu faire quelque chose aussi. Toujours dans Luc, chapitre 5, verset 30, dans la maison de Matthieu, rentrer dans la maison d'un publicain, d'un homme de mauvaise vie, les pharisiens qui sont là en train de... Ah, mais ils ont été les vecteurs de l'ennemi, hein, très souvent, les pharisiens, en disant, mais comment se fait-il que toi et tes disciples, vous mangez avec des gens, avec des prostituées, des choses comme ça? Là, c'était encore une occasion favorable. Et puis, chapitre 6, verset 2, c'était de ligoter Jésus, c'était l'empêcher de faire sa mission, parce que on le provoquait, parce qu'il défiait la tradition du sabbat, et la tentation dans laquelle il n'a pas voulu tomber, c'était de rester dans le statu quo religieux du temps, de ne rien dire et de rien faire. Et à chaque fois, Jésus a dit, et il a fait, allez, prends ton lit et marche. Oh, c'est un scandale hein, pour les gens. Jésus aurait été tenté de dire, bah, écoutez, on regarde un petit peu la situation pour pas que ça fasse de vagues, hein. Ben Jésus, précisément, il a montré que... autre chose. Luc, chapitre 7, verset 39. C'est la malveillance de Simon le pharisien qui va être la bouche du diable ou la pensée du diable suggérant en disant « Ah, s'il était prophète, eh bien moi je vous dis qu'il ne toucherait pas cette femme et de quelle espèce elle est parce que c'est une prostituée. Il ne se laisserait pas toucher par elle. » Vous connaissez votre Bible, hein, je passe très rapidement. Tentation encore subtile, Luc chapitre 9 verset 54, la tentation de la vengeance, de susciter dans le cœur de Jésus eh bien un mouvement de colère. Et peut-être que humainement parlant, il y avait de quoi. C'est quand Jean l'apôtre de l'amour vient voir Jésus et que les Samaritains ne veulent pas recevoir Jésus et puis ses disciples. Jean va suggérer, là Jean va se faire l'agent de l'ennemi auprès de Jésus. Tu sais, Seigneur, hein, ben, tu peux demander le feu du ciel pour détruire ces hommes. Hein. Voilà. Jésus était venu pour donner la vie, pas la mort. Derrière cette pensée diabolique. Et puis, Luc chapitre 11, verset 53. Quand Jésus ne s'est pas tu, parce que la vérité dérange, elle bouleverse. Eh bien là, le statu quo, comme nous l'avons dit, et dans l'histoire des sept malheurs des pharisiens hypocrites, vous connaissez? Je peux vous dire qu'ils n'ont pas été contents. Hein. Jésus leur disait la vérité. Et parce qu'il leur a dit la vérité, eh bien, il s'en est fait des ennemis à mort. C'est comme ça que Jésus s'est retrouvé à la croix. Hein. Pharisiens hypocrites. Chapitre 13, verset 14. C'est le chef de la synagogue indigné parce que Jésus va guérir une femme qui était courbée depuis 18 ans. Et là, il nous est bien dit que Satan tenait cette femme malade depuis tant d'années, ne fallait-il pas la délivrer? Pareil, tentation de ne rien faire, de laisser cette femme malade. Mais Jésus l'a guéri. Et je peux vous dire que le chef de la synagogue, il savait plus où il en était rendu. Il était furieux parce que, à ce moment-là, eh bien, il a dit des choses qui étaient terribles. Et puis encore, Luc, chapitre 16, verset 14, c'est la dénonciation de l'avarice. Et toujours les pharisiens, c'est curieux, c'est toujours les mêmes. Ouais. Pour amener Jésus à manquer de courage devant les moqueries, parce qu'il nous est dit que les pharisiens, quand Jésus leur a fait une belle leçon sur l'avarice, sur l'amour de l'argent, ils se sont moqués de lui, ils l'ont tourné en dérision publiquement. Jésus est passé, il n'y a pas fait attention. Luc, chapitre 19, verset 17, c'est faire face à la méchanceté de ses adversaires pour le faire mourir. Tentation de la crainte de perdre sa vie, la peur des hommes. Parce que l'adversaire vient vers lui. Dans trois versets, Luc 19, chapitre 20 et également une autre partie du chapitre 20, que le diable se présente d'une manière déguisée, et là il va déclencher une avalanche, un feu croisé d'animosité, de haine et d'inimitié contre Jésus. Jésus ne bouge pas. Il laisse vociférer le diable à travers tous ces gens qui l'entourent. Et puis il y a quand même quelque chose, mais là c'est pas normal, je voulais quand même vous le dire, parce qu'il y avait beaucoup de références, jusqu'au moment favorable. Mais Jésus était prêt à affronter tous les moments favorables, et il a sorti le bouclier de la foi, et à chaque fois les traits enflammés du malin se sont écrasés. Vous connaissez naturellement le texte. Mais il y a quand même un texte qui est quand même pas mal, parce que je vous ai parlé de Jean tout à l'heure, mais il y en a un qui va véritablement être l'agent du diable. Au moment favorable, c'est au moment où Jésus va aller vers la croix. Et là, il y a Pierre. Au chapitre 16 et au verset 21, je vais vous relire un petit peu ça. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Mais attendez, Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et lui dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, non pas Pierre, mais arrière de moi, Satan, derrière Pierre, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Vous rendez compte? Même un disciple de la carrure spirituelle d'un Pierre va se faire l'agent pour empêcher Jésus d'aller à sa mission. Ça ne t'arrivera pas. Évite la croix. C'est pas la peine de monter à la croix. Qu'est-ce que tu veux? T'inquiéter du salut des hommes. Les hommes, ils meurent. Ils sont perdus depuis des siècles et des siècles. C'est pas la peine. Et vous savez que Jésus va discerner à ce moment-là. Il va dire, arrière de moi, Satan. À certainement un des plus proches disciples. Même Pierre se fait l'agent du tentateur pour faire renoncer Jésus à sa mission ultime de sauver l'humanité. Jusqu'au moment favorable. Et l'ultime moment favorable, l'ultime tentation, c'est celle de Gethsémané. Ouais, parce que c'est elle qui va ouvrir la porte pour aller à la croix. Parce que Jésus, à ce moment-là, pouvait dire oui, et il pouvait dire non. Et nous avons ce compte-rendu tout simple, quand au chapitre 22 et au verset 39, il est donné cette parole, et verset donc 39. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, c'est-à-dire le jardin de Gethsémané, Jésus leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ d'un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner cette coupe de moi, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Et Jésus a donné le dernier mot. Pas ma volonté. Souffrance ou jouissance, je renonce à tout cela. Je n'irai pas dans un sens ou dans un autre, mais que ce soit ta volonté. Je voudrais souligner deux vérités avant d'en finir. Deux vérités à mémoriser. Jésus dit à ses disciples, dans ce moment ultime, de ce moment favorable, où il aurait pu tourner le dos à sa mission et dire, Seigneur, c'est trop fort pour moi, je ne peux pas. Alors tu vas choisir un autre. comme Moïse le dira, aura la tentation de le dire lorsque Dieu lui dira « Tu vas aller vers Pharaon ». Il lui dit « Mais je ne sais pas parler, moi je ne sais pas, je ne peux rien. » Ouais. Mais il était quand même heureusement Moïse. Hein. Et Jésus aurait pu la décliner finalement jusqu'au dernier moment. Mais il a dit « Que ta volonté soit faite ». Et la parole qu'il va donner à ses disciples, c'est celle-ci « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation ». Alors je vais vous expliquer quelque chose. Il faut faire la différence. C'est pratique, hein? Entre être tenté et entrer en tentation. Si c'est écrit, et dans l'examen des textes, qu'on appelle l'exégèse biblique, il y a bien une différence. Autrement, ça n'aurait pas été écrit comme ça. Être tenté ou entrer en tentation. Quand on est tenté, la parole de Dieu nous demande de prier et de veiller. C'est pas toujours facile. De prier, veiller et prier, afin, nous dit Jésus, de ne pas rentrer en tentation. Donc, il y a comme une sorte de vestibule, vous savez, d'étapes. Première étape, être tenté. Deuxième étape, entrer en tentation. Veillez et priez afin que vous ne rentriez pas en tentation. Ça, c'est conforme à l'enseignement. Voilà. Entrer en tentation, c'est lorsque celle-ci pénètre en nous, nous domine, devienne une force motrice, une force d'attraction, dominante, voire même obsédante. C'est une sorte de feu consumant et un poids qui nous paralyse. Et là, nous sommes rentrés en tentation. La première phase, elle disparaît dans la prière de veiller et prier. Soyez sobre, parce que votre adversaire, le diable, rôde. La deuxième, c'est que dans notre nature humaine, dans nos faiblesses, dans notre petitesse, dans toutes sortes de choses qui appartiennent à notre humanité, et je rappelle que la tentation n'est pas un péché. On l'a vu la première fois, je me suis expliqué dessus. Hein. Parce que si la tentation était un péché, Jésus n'aurait pas pu nous sauver parce qu'il serait devenu pécheur aussi. Mais il était saint. Donc attention, c'est une question de bien comprendre. L'enseignement de la parole de Dieu est important. Hein. C'est essentiel. Parce que ça a tellement donné de fausses doctrines et toutes sortes de choses qui ont manipulé le cœur et les esprits, les âmes des hommes. Alors, on s'aperçoit que c'est un feu qui paralyse. Lorsque nous sommes enclenchés dans un mécanisme d'entrée en tentation, ben notre esprit, nos pensées, tout ça, c'est pris par ça. C'est pas que nous avons répondu, mais nous sommes pris par cette affaire. Je donne un exemple. Être tenté, vous allez comprendre plus facilement. Le voleur rôde autour de la maison. Voilà. Entré en tentation, le voleur s'est introduit à l'intérieur. Et là, le combat s'engage entre le voleur et le propriétaire. Et là, lorsque finalement les idées, les pensées, l'obsession, toutes sortes de choses, ce feu qui nous brûle à l'intérieur, c'est à l'intérieur de nous-mêmes que le combat va s'engager. Qui va gagner à ce moment-là? Est-ce que c'est le Seigneur parce que je vais véritablement me ranger de son côté avec sa force toute puissante? Ou alors est-ce que c'est l'adversaire qui va m'amener à descendre à capituler? Qui va l'emporter? C'est Jacques qui nous dit cette parole, et en substance, il nous rappelle ce principe, quand dans le chapitre premier, il dit ceci, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente hein ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal, ça ne viendra jamais du Seigneur, hein, ça il faut être clair. Et il ne tente lui-même personne, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, quand la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Donc vous comprenez, il y a des étapes dans tout cela. C'est ce que Jacques nous rappelle. Ça, c'est la première vérité. Entrer en tentation. La deuxième vérité, vous avez remarqué, il nous est dit que Jésus pria en disant, et c'est le verset que nous avons vu tout à l'heure, « Si tu pouvais ôter cette coupe, alors à ce moment-là, eh bien Seigneur, mais non pas ma volonté, mais la tienne. » Ça, c'est le deuxième point que je voudrais élucider un petit peu. On apprend ici que le « oui » affirmé et définitif à Dieu est en même temps un non catégorique au diable. Quand nous disons « oui » à Dieu, le diable, il a compris que c'était non pour lui. Hein. Et le problème, c'est toujours notre ambivalence. Nous disons des demi-oui et des demi-non. Et il y en a un qui l'exploite. Un oui résolu, définitif, catégorique, c'est oui pour Dieu. Jésus a dit, mais non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Et ça, nous avons besoin, vraiment, je le dis aussi pour moi-même, nous avons besoin d'être encore à l'école de Dieu pour apprendre à dire oui ou à dire non. C'est dur, hein, parce que nous nous battons. Hein. On se bat. Il y a des combats, il y a des luttes, il y a des dualités. On est quelquefois déchiré par toutes sortes de choses. Seigneur, apprends-moi à te dire oui. On le chante quelquefois dans les cantiques, hein. Mais jusqu'à quel point nous disons oui? Mais le Seigneur est venu pour nous sauver parce qu'il sait que nous sommes faibles. Hein. Eh oui. Alors à ce moment-là, quand il entend que nous disons oui à Dieu, lui pour lui ça veut dire non, et il ne peut plus rien faire, il est neutralisé parce que nous avons pris une position, certitude, assurance. Et Dieu nous assure de son secours divin. Puisque tu as choisi, regardez dans les trois tentations, Jésus renvoie le diable. Alors ça c'est le verset que nous avons vu. Et c'est pas fini, même à Gethsémané, parce que le tentateur aura encore des moments favorables, je le rappelle, au tribunal, devant Hérode, devant Pilate, devant toute ce simulacre de justice, ce déni de justice, jusqu'à la croix, où il y aura encore là les magistrats, les violences physiques, à travers toutes sortes de choses, et pourtant Jésus dit « pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Vous savez pourquoi les hommes ne savent pas ce qu'ils sont? Parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont manipulés par l'adversaire. À travers toutes sortes de pressions, de tentations, jusqu'à l'agonie, aux indicibles douleurs que Jésus connaîtra sur la croix. Mais je pourrais vous dire, en affirmant, que chaque tentative, à chaque instant, à chaque heure, eh bien, ça a été un échec pour le diable, de la part de Jésus, hein, naturellement. Sur toutes les lignes et les créneaux d'attaque, Jésus n'a jamais été vaincu. Il est vainqueur. Son triomphe, ça a été la résurrection. Et ça, excusez-moi, mais c'est peut-être pas très bien, mais ça a été le pied de nez au diable, tu vois. Tu vois, regarde. Il a traduit les autorités, les dominations, et il les a roulées en spectacle, dans l'ignominie et la honte. Pour le temps et pour l'éternité, le diable a été vaincu. Alors, à retenir, trois choses. La tentation est permise par Dieu. Je rappelle, elle n'est pas péché. C'est quand nous allons jusqu'au bout. La tentation est permise par Dieu. La domination de la tentation, ou sa domination, c'est le chemin qui mène à la stabilisation de notre personnalité et à nos progrès spirituels. Contrairement à ce que nous pourrions penser, la tentation n'est pas faite pour nous détruire, mais pour nous construire. Tout dépend de la réponse que nous donnons. Si on va vers le haut ou si on va vers le bas. Et c'est l'école de Dieu. C'est pour ça que le Fils a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et quelqu'un qui viendrait me voir et qui me dirait « Moi, je suis chrétien, mais je connais pas la tentation, je ne sais pas », eh bien, je lui dirais « Il te manque quelque chose. Hein. Tu n'es pas à l'école de Dieu. Tu n'es pas selon les instructions que le Seigneur veut donner à toute créature pour qu'elle puisse grandir. » C'est le grand enjeu, le grand défi entre le bien et le mal, cette dualité. Hein. Donc, cela nous mène à la stabilisation de notre personnalité. Au lieu d'être flottant d'un côté ou d'un autre, eh bien, nous allons avoir une personnalité spirituelle et nous allons grandir. Et le fixateur, je vous ai parlé de stabilisation, le fixateur de tout cela, c'est un fixateur de nos choix et d'équilibre. C'est en fonction de nos choix. Le diable ne pourra rien faire si nous ne lui laissons pas la possibilité. Il pourra tout faire si nous lui ouvrons la porte. Et ça va nous fixer à un moment donné. Et c'est certainement ce que nous apprenons en vieillissant. Après des années des avis de vie chrétienne, les passions de certaines choses dans la jeunesse, à un moment donné, ça s'éteint. On n'en a plus envie. C'est fini. Et puis, à ce moment-là, bien, on trouve un certain équilibre dans la vie. Mais c'est ainsi que ça se fait. Deuxième point, c'est que la tentation s'attache toujours à nos points faibles. Ah oui. Vous savez, quand on n'a pas la tendance de l'alcool, bon, on peut boire, hein, c'est normal. On peut boire, c'est vrai. Mais ça nous dit pas grand-chose. Hein. On boit ce qu'il faut, c'est tout. Hein. Et puis dans bien d'autres domaines, c'est la même chose. Hein. Quand on n'est pas joueur et qu'on fréquente pas les casinos, moi je peux passer devant, il y en a quelques-uns dans la région, j'ai vraiment pas envie de rentrer pour voir ce que ça fait. Hein. Hein. Voilà, c'est clair. Je suis pas poussé pour dire, eh ben écoute, est-ce que j'ai quelques pièces jaunes dans ma poche pour voir un peu ce que, si je pouvais gagner de l'argent, vous rendez compte? Qu'est-ce que je ferais avec tout ça, dis donc? Ah oui, mais ça, moi ça me dit rien du tout, j'y pense même pas, hein. C'est quelque part quelque chose d'inconnu, et heureusement d'ailleurs, hein. Puis bien d'autres choses. J'ai aussi mes faiblesses sur d'autres choses, hein. Un pasteur n'est pas au-dessus des autres, hein. Faut pas croire, hein. Alors, ça s'attache toujours à nos points faibles, c'est à la fois, finalement, utile, mais c'est aussi dangereux en même temps. C'est utile parce que je peux grandir si je dis oui, mais c'est dangereux si je dis non. Y succomber, ou alors en être purifié. Soit je vais tomber, ça ne veut pas dire que je sois perdu. Si je reviens en demandant pardon à Dieu, je pleure, et que je lui dis « Seigneur, dégoûte-moi de tout ça, parce que ça commence à bien faire, ça fait des mois, des années que ça trotte dans ma tête, et je suis malheureux. » C'est ce que Paul écrit dans Romains chapitre 7, vous le relirez, « Je fais le bien, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. » Quel terrain de bataille que notre vie! C'est terrible, Seigneur! Alors, soit je vais en être, je vais succomber, ou alors je vais en être purifié. Qui va l'emporter dans cela? Est-ce que c'est la chair ou est-ce que c'est l'esprit? Vous avez des textes pour ça, je vous les cite pas. La dernière proposition, c'est la tentation. La tentation disparaît quand l'attraction supérieure, c'est ce que j'ai trouvé comme mot, l'attraction supérieure de Christ vivant, de son esprit, en moi, domine sur mon âme, donc dans ma volonté, dans ma pensée, et dans mes cœurs, dans mon corps, ce sont mes instincts. Parce que l'homme est fait avec des instincts. Ouais. Et à ce moment-là, c'est quand Christ est mis à la véritable position, eh bien, les choses prennent une autre tournure, et l'on devient maître de soi-même. Dans l'explication des fruits de l'esprit, il nous est bien dit que parmi les fruits de l'esprit, il y a la maîtrise de soi, que l'on appelle autrement la tempérance, ou si vous voulez, l'équilibre, tout simplement. C'est un fruit du Saint-Esprit. C'est pour ça que nous avons besoin de grandir, et ça, c'est quelque chose que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. Quand on va à l'école, à divers niveaux, on passe des tests, on passe des examens, on les réussit ou on les perd. Si on les perd, ben, on recommence. Mais si on les réussit, on rentre dans la classe supérieure. Et c'est la même chose pour nous. Nous voulons rentrer dans une classe supérieure de vie spirituelle, d'approche de Dieu. Ben, Seigneur, donne-nous de réussir nos examens. Et c'est fait pour ça d'ailleurs. Donc c'est pas inutile. C'est vraiment utile. Toutes les tentations journalières que nous connaissons les uns et les autres, c'est une répétition de lutte et de choix qui nous élèvera par degrés ou qui nous abaissera dans l'autre sens. On tombe de plus en plus ou on monte de plus en plus jusqu'à la victoire parce qu'il faut y croire. Et quelque chose de formidable, le mot que je vais citer, l'immunité contre le mal. C'est-à-dire que Dieu nous a pas demandé de quitter le monde pour plus voir le mal. Je te prie pour eux pour qu'ils restent dans le monde, parce que c'est comme ça, mais tu les préserves du mal. Et un chrétien peut voir le mal, autant que ça peut lui être désagréable, mais n'aura pas envie. Ça s'appelle de l'immunité. C'est un contrepoison, c'est de l'antidéfense. Et c'est comme ça que nous devons grandir. C'est comme ça que nous devons nous développer. Alors il y aura cette victoire et cette immunité finale sur nos instincts naturels, charnels, voire même passionnels, pour être enfin capable de gérer et de contrôler notre vie. Et vous savez comment ça s'appelle ? La maturité. Quand Paul nous parle des Éphésiens, il dit « Mais tu m'as envoyé pour que j'annonce ta parole, pour que je leur enseigne ta parole, tu as donné des dons, aux hommes, des ministères dons, pour qu'ils ne soient plus flottants et emportés à tout vent de doctrine, tout vent de je ne sais quoi, mais qu'ils deviennent des hommes et des femmes faits en Jésus-Christ. » Et je termine par cette dernière citation, parce que c'est elle qui nous montre le triomphe de Christ, quand il nous est dit ceci. Approchons-nous donc avec assurance. Ce matin, mes frères et sœurs, vous avez peut-être été tentés. Dans la semaine où vous êtes tentés, je n'en doute pas, c'est comme ça. Mais écoutez bien, approchez-vous donc. N'ayez pas peur. Si vous vous laissez culpabiliser à mort, le diable va vous dire, écoute, tu peux sortir de l'église, c'est pas ta place ici. Eh bien, justement, il va falloir lui répondre. Moi, je veux véritablement changer. Je vais véritablement vivre une autre vie. Et c'est le Seigneur qui me donnera la victoire. Alors, approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce, parce que c'est un trône de grâce. Et permettez-moi de dire, c'est pas un trône de jugement, ni de condamnation. Le Seigneur est venu pour nous sauver, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous donne sa grâce. 1, 2, 3. Il y a une étude complète que vous pouvez retrouver si vous voulez. Que Dieu nous bénisse et nous allons prier maintenant simplement. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta bonté et ta fidélité. Oui, Seigneur, tu nous as renfermés dans un corps. Et Seigneur, notre humanité, elle est renfermée dans un monde. Et ce monde, Seigneur, c'est pas un monde qui est des plus beaux. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui est laid. C'est un monde qui est injuste. C'est un monde de mensonges. C'est un monde qui est tripoté par toutes sortes de choses où le mal domine. Mais nous croyons. Notre confession de foi, c'est que nous avons un sauveur merveilleux qui est venu nous dire que nous pouvons vivre dans ce monde tout en n'étant pas du monde. Et nous te remercions et nous te bénissons. Moi, je te prie pour mes frères et mes sœurs. Nous te prions pour chacun d'entre nous, Seigneur, personnellement, de telle manière, Père éternel, que dans nos combats et dans nos luttes que nous avons, eh bien, Seigneur, nous puissions croire que nous pouvons nous approcher du trône de la grâce pour obtenir miséricorde dans tous nos besoins. Seigneur, je te demande d'encourager mes frères et mes sœurs qui ne baissent pas les bras. Parce que c'est vrai que cette école, eh bien, elle nous amène par degrés à grandir, à la maturité, à l'immunité, Seigneur, de toutes ces choses mauvaises. Et c'est ainsi que tu as voulu que nous traversions la vie. Mais Seigneur, une chose qui nous réjouit, c'est que si nous regardons vers les hommes, même les meilleurs, eh bien, nous allons chuter. Mais si nous regardons vers Christ, qui a été tenté en toutes choses, sans commettre de péché, alors tu nous as ouvert une porte. Nous avons une porte merveilleuse, nous avons un chemin, nous avons, Seigneur, une route qui a été tracée devant nous, une route de victoire, une route de triomphe, parce que celui qui nous a donné cette parole, c'est celui qui va la réaliser, en effet, pleinement et totalement dans nos vies. Merci Jésus. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.